France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal de Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour. L'évacuation sans grande résistance ce matin du site de Tolbiac, Université Paris 1. La police a donc expulsé les étudiants qui occupaient le site. Et maintenant, nous nous poserons la question dès le début de ce journal. Peut-on encore sereinement débattre à l'Assemblée nationale sur des sujets aussi graves que notre politique d'asile et d'immigration? L'opposition dénonce la volonté du gouvernement de précipiter l'examen du texte pour masquer les divisions de la majorité sur le fond. Une réforme en chasse une autre. Nicole Belloubet présentait ce matin en Conseil des ministres son projet de refonte de notre système judiciaire déjà contesté par les avocats et les magistrats. Ce sera le sujet de notre reportage interactif. Hashtag je défends ma justice. Un imam marseillais connu pour ses prêches particulièrement radicaux a été expulsé vers l'Algérie. C'est l'épilogue d'une procédure menée tambour battant par Paris mais qui avait soulevé les réserves de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce journal, nous irons aussi en Espagne où les Basques de l'ETA demandent pardon à leurs victimes dans un communiqué publié ce matin. Enfin, la séquence interview de ce midi 30. Quelle sortie de l'impasse pour la SNCF? Quelle nouvelle de la convergence des luttes après la journée de mobilisation d'hier? Notre invité, c'est le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Tout cela, bien sûr, avant de retrouver la deuxième partie de la Grande Table, Olivia.
Oui, une philosophie consolatoire au menu de cette Grande Table du vendredi avec le philosophe André Comte-Sponville. Vie, mort, éthique, mais aussi bioéthique. Autant de sujets que nous aborderons avec lui à partir de 12h55 de la deuxième partie de l'émission.
C'est donc l'un des principaux bastions de la révolte étudiante qui a été évacué ce matin par une centaine de policiers. Le site de Tolbiac, Université Paris 1, était devenu, il faut bien le dire, depuis la fin du mois de mars, le laboratoire de la contestation contre la réforme. Or, l'introduction d'une sélection de facto pour l'entrée à l'université. L'évacuation du site s'est déroulée dans le calme, entre 5 et 6 heures du matin. Alors forcément, du côté du gouvernement, par la voix de Gérard Collomb, on se félicite d'un rétablissement, je cite, de l'état de droit à Tolbiac. Il faut dire que le président de l'université avait demandé l'intervention des forces de l'ordre il y a déjà plus d'une semaine. Et alors, à la veille des vacances universitaires, les étudiants bloqueurs s'attendaient à être délogés, Ariane Grissel.
Ça fait un moment qu'ils s'attendaient à une évacuation, mais ce qui a surpris les étudiants, c'est l'heure de l'intervention.
Tout se passait bien, vers 5h du matin. Moi, j'étais en train de me reposer. Et on a des camarades qui sont venus nous réveiller en nous disant que les policiers étaient en train de rentrer à la fac. Ils ont fait beaucoup de casse pour rentrer par tous les côtés.
Ils étaient encore une cinquantaine dans l'amphithéâtre. Tout s'est passé très vite, en une demi-heure. Le bâtiment a été vidé de ses occupants. Une intervention demandée et saluée par le président de l'université, Georges Haddad.
Je n'ai pas demandé cette intervention de gaieté de cœur, mais j'y ai été contraint par la succession d'événements parfois graves. Les dégradations commises sur place se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout est à refaire.
Un petit groupe d'étudiants a continué à manifester près du bâtiment avant d'être évacué par les forces de l'ordre.
On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait éclore. Et moi, j'appelle à l'embrasement du pays, parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra marcher.
Ils ont arraché, en fait, du coup, la banderole qui a été mise, la grande banderole. C'est des images qui me font très mal. On n'est pas contre les flics, mais on est là pour défendre nos droits. Mais on ne se laissera pas faire, par contre.
Le bâtiment de Tolbiac, lui, reste fermé jusqu'à nouvel ordre.
Ariane Grissel, à l'université Tolbiac, Paris 1. Qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence possible sur la suite du mouvement de contestation dans les universités françaises? Ce matin, à Sciences Po Paris, la direction fait savoir que le site de la rue Saint-Guillaume est à nouveau occupés, bloqués par des étudiants qui ont dormi sur place. À Strasbourg, les occupants de la fac de maths ont quitté les lieux ce matin au moment où la police arrivait pour les déloger, mais d'autres sites de l'université alsacienne restent bloqués. Puis, on l'a entendu à Tolbiac même, les étudiants n'ont pas dit leur dernier mot. La question, Louis-Valentin Lopez, c'est comment gérer l'après de cette démonstration de force de ce matin?
Oui Camille, et après, eh bien, de nombreuses questions restent en suspens. Et la première, c'est évidemment celle de la durée après les évacuations. Le mouvement peut-il se pérenniser? Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, n'y croit pas.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les vacances sont quasiment dans toutes les zones en même temps. Il va y avoir un certain nombre de ponts, donc la capacité à mobiliser va être plus faible. Et puis après, le début des examens qui sont jamais propices à une mobilisation des étudiants importante.
Et lorsqu'on évoque justement la question des examens avec Claude Lelièvre, historien de l'éducation, il pense immédiatement à mai 68. Oui, sauf que le contexte n'était pas vraiment le même, il l'explique.
En 68, il ne faut pas oublier que la question des examens se posait d'une façon différente parce que les examens étaient plus tardifs et surtout, il y avait une deuxième session en septembre. Il n'y a pas d'exemple à l'université que lorsqu'il y a eu des mouvements importants, les examens finalement ne se soient pas passés.
Et à Tolbiac, ces examens, nous l'avons appris tout à l'heure, se dérouleront en revanche à l'extérieur, en cause notamment les dégradations. Elles se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros, nous l'avons entendu dans le reportage d'Ariane Grissel. Et après, la question qui se pose, c'est aussi celle évidemment du dialogue. Certains personnels d'université aimeraient plus de clarté dans les revendications des étudiants. Ils estiment que la ligne directrice est pour l'instant un peu floue, veulent-ils supprimer Parcoursup, une réforme de la réforme. Des présidents souhaitent aussi que les interlocuteurs soient davantage définis pour discuter dans les meilleures conditions.
Louis-Valentin Lopez, merci. Autour de cette table, il y a aussi Philippe Martinez. Bonjour, vous êtes l'invité de ce journal. Vous êtes le secrétaire général de la CGT. Sur ce mouvement étudiant et l'évacuation ce matin de Tolbiac où on avait vu des représentants des cheminots venir discuter avec les étudiants. On avait vu des étudiants de Tolbiac aller manifester hier dans les manifestations interprofessionnelles appelées par la CGT notamment. C'est un élément important de ce que vous appelez de vos souhaits, d'une convergence des luttes, ce mouvement étudiant.
En tout cas, c'est bien quand des salariés discutent avec des futurs salariés sur un certain nombre de questions. Par exemple, des étudiants qui vont avoir un diplôme. À quel niveau on va payer leur diplôme quand ils vont arriver à l'entreprise? Oui, c'est important de discuter pour préparer l'avenir.
Et sur ce qui s'est passé ce matin, sur cette évacuation?
Écoutez, je ne crois pas que ça soit la meilleure façon de montrer une volonté de dialogue que d'envoyer des CRS.
Ça se fait un écho aussi avec ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'est passé dans d'autres universités, selon vous ?
Dans les universités, Notre-Dame-des-Landes, et puis dans quelques entreprises aussi, parce que c'est quand même aussi assez fréquent. Alors, discuter avec une matraque, je ne suis pas sûr que ça soit très facile.
Alors qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit du gouvernement, selon vous ?
Ça marque sa volonté de dialogue. Vous avez noté, par exemple, chez les cheminots, je pense qu'on en reparlera, on arrive avec un texte, on rentre tous dans une salle, et quand on ressort, le texte est le même. Voilà.
On va reparler du dialogue possible ou impossible sur la SNCF et bien d'autres sujets sociaux du moment avec vous, Philippe Martinez. Vous restez avec nous dans quelques minutes, ce sera notre séquence interview. Des députés contraints de jouer les prolongations au Palais Bourbon. L'examen du projet de loi Asile et Immigration devait se terminer ce soir avant deux semaines de congé pour les parlementaires. Mais l'examen du texte va se prolonger donc au moins jusqu'à demain soir, peut-être même jusqu'à dimanche. Il faut dire, Ludovic Piétenu, que le texte continue, on le voit ce matin encore, à diviser l'hémicycle comme aucun autre projet de loi en un an de mandature.
Oui, l'ambiance est encore très particulière ce matin dans l'hémicycle, comme cet échange entre le député insoumis Hugo Bernalicis et le président de la séance, le marcheur Hugues Granson, un petit peu lassé des interruptions en tout genre.
Voilà, nous avons un rappel au règlement. Monsieur Bernalicis, je me réjouis de comprendre comment, de voir que vous constatez, de vous comprenez enfin, pardon, comment fonctionne le règlement de notre Assemblée nationale. Vous avez la parole.
Ah, regardez, j'ai tellement bien compris comment fonctionne le règlement. C'est l'article 64 qui dit qu'au cas où il y a un doute...
Le rappel au règlement sur la base de quel article, monsieur ?
64.
Autre exemple de ces tensions qui règnent dans l'hémicycle ce matin, la députée La République En Marche, Sonia Crimi, qui vote contre tous les articles, les uns après les autres. Ce qui déplaît évidemment au ministre Gérard Collomb qui porte la réforme.
Oui, je vais faire attention, monsieur le ministre, mon ami, monsieur le ministre. Donc je vais faire très très attention.
Je vais donc mettre sur l'article 5, hier soir, 7 députés La République En Marche ont voté contre et 6 se sont abstenus. Et puis ce matin, sur l'article 6, 8 contre et 4 abstentions. On est donc encore loin de la fronde, mais quand même, c'est inédit pour le groupe Modem allié des marcheurs. Écoutez Laurence Wisniewski.
Mais il est bon qu'il y ait de la diversité et que chacun exprime ce qu'il a ressenti du terrain. Cet amendement concerne... la présence de l'interprète.
Voilà, vous les entendez, les applaudissements sont tout de même très timides. Pour résumer, pour la majorité et le gouvernement, depuis lundi, les coups viennent de trois côtés. Pas des quelques élus Front National qui ont voté l'article 5 hier soir avec la majorité des marcheurs. Non, les critiques émanent de la droite, des Républicains, notamment Éric Ciotti, très offensif, de tous les bancs de la gauche, insoumis, communistes et socialistes, et puis de l'intérieur du groupe des marcheurs, une vingtaine de députés environ sur un groupe de 300.
Ludovic Piétenu, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis l'Assemblée nationale qui verra arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un autre projet de réforme de fond mené par le gouvernement. C'est le projet de réforme de la justice qui a été présenté ce matin par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Bonjour Charlotte Lalanne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Vous signez cette semaine le hashtag de France Culture sur la manière dont cette refonte annoncée de nos tribunaux est très fraîchement, on va l'entendre, accueillie par les différentes professions du monde de la justice. Hashtag je défends ma justice donc.
Et parmi les mesures les plus critiquées, la fusion des tribunaux d'instance et de grandes instances qui hérissent les avocats.
La survie du service public et que le justiciable puisse avoir accès à son juge. Nous sommes par conséquent vent debout contre cette déshumanisation que projette la chancellerie, puisque une partie du territoire ne serait plus pourvue de sa juridiction et il y aurait des déserts judiciaires alors qu'il y aurait une concentration en réalité de la justice dans les métropoles.
Marie-Pierre Augel est bâtonnière du barreau de Dieppe où le tribunal d'instance serait absorbé par le tribunal de grande instance avec des conséquences inquiétantes si l'on en croit l'étude d'impact commandée par son barreau.
L'étude d'impact démontre qu'il y aurait une partie des justiciables qui renonceraient à leur procédure. Et sur un plan économique, si le tribunal était vidé d'une part de son contentieux, il y aurait 52% des avocats qui quitteraient le barreau. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour aller plaider telle ou telle affaire, irait s'installer sur une plus grosse juridiction.
Une justice sans avocat et sans juge, voilà ce que dénoncent les adversaires de cette réforme. Sur Twitter, Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats nous dit ainsi « Le juge d'instance spécialisé dans l'écoute des plus vulnérables risque de perdre sa compétence. » Même crainte du côté des greffiers. Ceux du tribunal d'instance de Nice adressent ce matin une lettre à Nicole Belloubet. La proximité, notre métier, notre fierté, peut-on lire. Inquiétude aussi sur leur avenir professionnel. Sur notre page Facebook, Charlie Le Chevalier évoque ses petites mains de la justice au quotidien qui demain n'auront plus, dit-il, de garantie d'affectation.
Et pourtant, Charlotte, la garde des Sceaux promet qu'aucun lieu de justice ne sera fermé.
Et oui, sauf que les auxiliaires de justice redoutent, eux, que ces sites asséchés de leurs contentieux finissent par mourir. Ce d'autant que les petits litiges seraient désormais réglés en dehors du juge via la conciliation ou la médiation. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, selon Bruno Catala, conseiller à la Cour de cassation.
Aujourd'hui, déjudiciariser, c'est comme si on disait un gros mot. Mais est-ce que le juge doit être saisi pour régler tous les conflits? Moi, je ne crois pas. Je travaille à la Cour de cassation. On est saisi de contentieux d'infraction au code de la route pour lequel la personne a été condamnée à 135 €. Est-ce que vous croyez que c'est justifié à partir du moment où ce contentieux de 135 € ne touche pas aux droits fondamentaux? Moi, je ne crois pas. Parce que si nous réglons ça, nous ne réglons pas d'autre chose.
La médiation pour désengorger les tribunaux. Et bien sur Twitter, Bruce dénonce le gouvernement qui acte, dit-il, le manque de moyens et adapte le système en conséquence. Le projet de loi prévoit 1,5 milliard d'euros de plus pour la justice. Et en la matière, la France est plutôt mauvaise élève en Europe. Elle est à la 23e place sur 28.
Hashtag je défends ma justice que vous signez donc cette semaine. Merci Charlotte Lalanne. On retrouve votre reportage multimédia sur franceculture.fr où l'on prolonge aussi la discussion sur cette réforme annoncée de la justice avec un grand entretien du magistrat essayiste Denis Salas. Le ministère de l'Intérieur confirmait ce matin l'expulsion vers l'Algérie d'un imam salafiste. Il officiait à Marseille et ses prêches particulièrement radicaux lui avaient valu ce mardi un arrêté d'expulsion, d'abord suspendu par la Cour européenne des droits de l'homme. La procédure a reçu le feu vert de la CEDH hier. Bonjour Florence Thurm.
Bonjour.
La France justifie cette expulsion de l'imam par l'influence supposée que ce Marseillais aurait eue sur les salafistes de France et par les thèses qu'il défendait dans sa mosquée, un lieu de culte qui, il faut le dire, Florence, avait été fermé par décision de justice à la fin de l'année dernière.
Oui, une décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône contestée par l'association qui gère la mosquée, mais validée par le Conseil d'État fin janvier. Il avait pointé un islamisme radical avec une forte influence sur les plus jeunes, 5 départs de fidèles pour le djihad en Syrie, ainsi que les appels à la haine et à la violence diffusés par son imam algérien arrivé en France en 1981. Deuxième acte, le 8 mars dernier, cette fois c'est l'imam lui-même, El Hadidoudi Sarkozy qui est visé. Une commission composée de magistrats administratifs et judiciaires se penche sur son cas. Elle ouvre la voie à son expulsion dans un avis motivé par une note blanche des services de renseignement, des propos très violents à l'encontre des caricaturistes de Mahomet et d'autres légitimant la mise à mort des auteurs d'adultère. À l'audience, l'imam s'est pourtant défendu d'avoir pour autant lancé des appels au meurtre. Troisième acte, le ministre de l'Intérieur lance la procédure d'expulsion. Elle allait être exécutée mardi dernier, 15 heures après l'arrestation de l'imam, directement conduit dans le port de Marseille, nous précise son avocat. Il saisit aussitôt la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle suspend la procédure en laissant un délai de 72 heures au gouvernement français pour fournir des explications complémentaires, ce qui a été fait. Mais c'est bien sur la forme et non pas sur le fond que se sont prononcés les juges de Strasbourg en donnant le feu vert, vous le disiez, à la procédure. L'imam a d'ailleurs la possibilité d'engager d'autres recours. Il n'est pas sûr qu'il le fasse, toujours selon son avocat. Il aurait demandé lui-même à rentrer en Algérie. La mosquée de Marseille, en revanche, devrait rouvrir le 7 juin prochain.
Florence Sturm, merci à vous. Midi 45 sur France Culture, c'est un communiqué publié ce matin dans deux journaux du Pays Basque espagnol. Communiqué de l'ETA qui porte des mots plutôt inhabituels dans le vocabulaire de l'organisation séparatiste. Reconnaissance des douleurs infligées par un demi-siècle de lutte armée, excuses présentées aux victimes et demande de pardon. On en parle depuis Madrid avec Marie-Hélène Ballestero, bonjour.
Bonjour.
Alors l'ETA annonce qu'elle va officialiser sa dissolution au début du mois de mai et elle se place donc dans une claire posture de demande de pardon.
C'est bien ça, comme vous le disiez, c'est un communiqué historique dont tout le monde parle aujourd'hui en Espagne. C'est un communiqué où la bande demande pardon et reconnaît le mal qu'elle a pu causer pendant des décennies de lutte armée. Nous avons causé beaucoup de douleurs et des dommages irréparables. Nous voulons manifester notre respect aux morts, aux blessés et aux victimes de l'ETA, peut-on lire. L'ETA reconnaît donc sa responsabilité directe dans la souffrance démesurée du peuple basque. Elle dit le regretter sincèrement et manifeste son engagement à surmonter définitivement les conséquences du conflit et à éviter qu'il se répète. Ce communiqué historique a été publié donc ce matin, 15 jours avant la dissolution de l'ETA, qui devrait avoir lieu le premier week-end du mois de mai au Pays Basque français.
Alors Marie-Hélène, il faut quand même apporter des bémols à cette posture de regret, des bémols qui ont été soulignés d'ailleurs très rapidement par les organisations de victimes de l'ETA.
Tout à fait, ces organisations de victimes de l'ETA n'ont pas du tout bien accueilli ce communiqué. Elles considèrent que la bande poursuit en fait dans sa stratégie de laver son image, d'obtenir des bénéfices de la part de l'État espagnol, notamment dans le cadre du rapprochement des prisonniers basques. Les victimes du terrorisme doutent de la sincérité de l'ETA et rejettent cette demande de pardon qui arrive trop tard. Par ailleurs, en Espagne, de nombreuses voix se sont élevées depuis ce matin pour dénoncer cette demande de pardon sélective ou partielle, car dans son communiqué, l'ETA demande pardon seulement aux victimes qui, selon les terroristes, n'avaient pas de lien direct avec le conflit basque. C'est un communiqué qui a donc provoqué beaucoup de réactions en Espagne. Ces dernières heures, le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy a souligné qu'il s'agit d'une nouvelle conséquence de la force de l'état de droit qui a vaincu l'ETA grâce aux armes de la démocratie.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. J'ajoute dans l'actualité espagnole cette information de nos confrères de la Vanguardia à Barcelone où l'on lit que Manuel Valls pourrait être le candidat du parti de centre-droit Ciudadanos pour la mairie de Barcelone. L'ex-premier ministre français réfléchit à cette proposition selon la Vanguardia qui rappelle que Manuel Valls ces derniers mois a multiplié les prises de position en public en Catalogne contre le mouvement indépendant. Midi 48, c'est la séquence interview à présent de ce journal avec notre invité Philippe Martinez. Merci d'être resté avec nous et merci également et bonjour à Annabelle Grelier qui va mener cette interview avec moi. Première question, Philippe Martinez, forcément sur la SNCF, 8 jours de grève déjà, l'annonce hier par l'intersyndicale du boycott des prochaines concertations avec la ministre Elisabeth Borne, le Premier ministre Édouard Philippe qui refuse de négocier directement avec les syndicats. Comment est-ce qu'on avance maintenant sur ce dossier ?
Je n'aime pas le mot boycott. Il y a eu plusieurs réunions.
Il y a un constat, en tout cas, d'un dialogue impossible qui n'est pas souhaité par le gouvernement.
Il y a une rupture.
Il y a un constat que la ministre n'écoute pas et qu'en plus, elle ne dit plus les choses en réunion, elle les dit après. Donc, en tout cas, pour la CGT, nous avons dit, si d'autres lui donnent des informations qu'elle divulgue, la filialisation du fret, la date du changement de statut pour les nouveaux embauchés, autant discuter avec celui qui donne des informations. Voilà.
Mais c'est très simple. Il ne veut pas forcément discuter avec vous.
Ça, j'ai compris, oui.
Donc, comment on avance ?
Ça, faut demander au gouvernement. Ils n'ont que le mot dialogue à la bouche. Mais je vous ai détaillé tout à l'heure leur conception du dialogue, hormis les matraques. C'est, vous avez un texte à l'entrée, mais on veut avoir le même à la sortie. Et le phénomène nouveau, c'est qu'on apprend des informations en sortant, grâce à vous d'ailleurs, parce que les organisations syndicales, les représentants syndicaux, je pense par exemple aux salariés des conseils d'administration, on en parle beaucoup des conseils d'administration, mais ils ne sont même pas réunis pour avoir l'information.
Alors vous appeliez une nouvelle fois hier hein, pour la grande manifestation interprofessionnelle à la convergence des luttes. La CGT s'est retrouvée quasiment toute seule. Pourquoi selon vous, ça ne prend pas cette convergence des luttes ?
Bon, la CGT n'était pas seule, elle n'est pas seule chez les cheminots par exemple, elle n'est pas seule dans la fonction publique, il y a des tas d'entreprises où il y a des choses se font. Ça c'est la première chose. Et nous regrettons que le soutien ne puisse pas venir des confédérations, parce que quand on a des salariés mobilisés ensemble, de façon unitaire, dans les entreprises, le moins qu'on puisse faire, c'est de leur dire on vous soutient et on vient défiler avec vous. Ça, c'est la première chose. Convergence de lutte, c'est ce qu'on a vu hier. C'est il y avait plus d'entreprises de représentées, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes spécifiques aux entreprises, et c'est bien qu'il y ait des défilés, des manifestations, des grèves, chacun en son entreprise, mais il y a besoin, pour éviter les oppositions, pour éviter de se faire traiter de privilégiés, eh bien qu'à un moment, à certains moments, on se retrouve tous ensemble.
Alors, est-ce que c'est la faute des syndicats, du coup ?
On a une responsabilité. On a une responsabilité. Quand on cultive plus les divisions et les différences que ce qui nous rassemble, eh ben, on a plus de mal à se mettre d'accord. C'est pour ça que je me félicite que de plus en plus dans les entreprises, il y ait des mouvements unitaires. Air France, par exemple. Air France, il y a 10 syndicats qui sont ensemble. Vous voyez, quand on veut faire les choses dans l'intérêt des salariés, on trouve des solutions.
Donc c'est plus au niveau national que ça pose problème.
Je pense.
Dans les manifestations, hier, on voyait des personnes de FO, des personnes de l'UNSA, mais à titre individuel et pas au niveau des confédérations.
À titre de leur entreprise. Il y avait les cheminots FO, CFDT, qui étaient présents dans les cortèges en province, par exemple.
Donc voilà. La base est prête à cette union syndicale.
C'est ce que je vois, c'est ce que je vois dans les entreprises.
Alors le 1er mai arrive et on sait déjà que tous les syndicats ne défileront pas ensemble. À la CFDT, Laurent Berger refuse de suivre votre stratégie, estimant que cette convergence des luttes, donc c'est une démarche politique. Syndicats et politiques, les Français savent depuis longtemps, donc ça se mélange.
Il y a des actions syndicales. Quand on dénonce la politique d'un gouvernement, on fait de la politique, forcément. Mais on reste sur des questions sociales. Et donc, c'est ça qui est important de montrer. Et donc, notre action, elle ne vise pas des affaires politiques. Convergence des luttes, c'est pas de la politique. C'est comment, je vous l'ai expliqué, comment on se regroupe régulièrement pour justement éviter les divisions. C'est ce qu'essaie d'ailleurs d'entretenir le gouvernement. Donc, il y a besoin de signes forts. Il y a besoin de signes forts. Et oui, nous avons une responsabilité, les syndicats au niveau national, à montrer ces signes forts pour donner confiance. Parce qu'il y a un mécontentement, il s'exprime de façon diverse, on en a parlé, les retraités, les étudiants, les lycéens, les salariés, du public comme du privé. Si on n'a pas un signe fort au niveau des confédérations, eh bien, ça sera plus difficile face à un gouvernement qui, lui, tient le cap.
Alors, la semaine prochaine, Force Ouvrière change de patron. Hein, Pascal Pavageau succédera à Jean-Claude Mailly.
Normalement.
Normalement. Comment voit-on ça à la CGT ? Ça peut changer quelque chose ?
C'est une affaire. Je
ne veux pas,
je veux pas
vous
faire de langue de bois, mais c'est quand même une affaire de syndiqués FO. Voilà, j'écoute.
Oui, mais puisque les problèmes se jouent au niveau national, est-ce qu'un Pascal Pavageau peut aller avec vous sur les convergences des luttes ?
J'écoute, je lis ce que dit Pascal Pavageau. Voilà, c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça ressemble à ce qu'on dit.
En tout cas, il a le sens de la formule. Dans les Échos ce matin, il explique que la méthode Macron, c'est « je pense donc tu suis ». C'est un point. Au niveau de la formule, vous êtes plutôt d'accord.
Très bonne formule.
Alors, on a donc pour le moment un président qui avance à grande vitesse, qui passe toutes les réformes, en tout cas tout ce qu'il avait annoncé dans sa campagne. Bref,
ce qu'il n'avait pas annoncé d'ailleurs.
En plus, un petit peu, c'est vrai. Vous pensez aux frettes, par exemple ?
Il a évoqué une idée nouvelle, une nouvelle journée de solidarité. Vous savez, quelque chose qui date déjà d'il y a plus de 14 ans.
En effet. Alors, comment justement on peut résister ou obliger au dialogue ou à la négociation ? Vous n'avez pas un petit peu peur que sous ce quinquennat, vous soyez cornérisé, un petit peu à la manière dans beaucoup de pays européens, comme en Angleterre, puisqu'on compare souvent Macron à Thatcher ?
voyez, comme quoi on peut être jeune et avoir des vieilles idées, hein, vous voyez. En tout cas, comment on contre, eh bien, à condition que les salariés prennent confiance en eux. Alors ça, on a une responsabilité, parce que vous le savez, les syndicats ne sont pas implantés dans toutes les entreprises, donc faut aller dans les entreprises où il n'y a pas de syndicats, donner confiance, donner des arguments, et je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, je ne connais aucun gouvernement quand il est face à une masse de salariés, de retraités, de chômeurs en colère, eh bien, il résiste.
Alors, juste la toute dernière question, comment on peut sortir de ce mouvement de grève des cheminots ?
Je ne sais pas, appeler Monsieur Macron, Monsieur Édouard Philippe, parce que pour l'instant, la responsabilité de ce conflit, c'est eux qui la portent.
En tout cas, il va falloir continuer la grève pour les faire changer d'avis. Il n'y a pas d'autre moyen de les faire bouger.
Pour l'instant, non. Il faut continuer à crier plus fort et plus nombreux pour leur déboucher les oreilles.
Philippe Martinez, merci beaucoup d'avoir été l'invité
merci à vous.
De France Culture pour ce journal de 12h30. Une interview à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture. Le temps reste au grand beau cet après-midi avec des températures records pour la saison entre 24 et 29 degrés. Un peu moins tout de même sur les côtes de la Manche. Et demain, même programme avec peut-être un retour des averses en fin de journée par le Cotentin. Ce journal était réalisé avec François-Charles Domergue à 18h. Retour de l'info, ce sera avec Benoît Bouscarel.